Nous vous souhaitons la bienvenue pour cette table ronde donc intitulée « Anthropologie fiction, quand les sciences humaines prennent leur revanche ». Et donc je vais commencer par vous présenter les intervenants que vous connaissez certainement. Je vais commencer par Robert Silverberg, qui est évidemment l'invité d'honneur donc, de ces utopiales. Est-ce qu'on le présente ? Oui, bien sûr. Donc, Robert Silverberg est un écrivain professionnel depuis 1955, très connu pour ses histoires fantastiques et de science-fiction. Il a plusieurs fois remporté les prix Hugo et Nebula. Il a aussi été nommé dans le Science Fiction Hall of Fame, en 1999, et a reçu la gratification honorifique de grand maître de la science-fiction, Science Fiction and Fantasy Writer of America. Ses livres et ses histoires ont été traduites dans une quarantaine de langues, et parmi les plus connus, évidemment, de ses titres, on peut trouver Les ailes de la nuit, L'oreille interne, Le livre des crânes, ainsi que les trois volumes du cycle de Magipour. Son recueil de nouvelles qui regroupe près de 6 années de travail a été publié à travers 9 volumes par Subterrane Press. Son dernier roman, Dernière nouvelle de Magipour, est une nouvelle collection d'histoires autour du géant qui s'est fait mondialement connaître grâce au roman Le château de Lord Valentin. Xavier Mauméjean est né en 1963 à Biarritz. Il est diplômé en philosophie et en sciences des religions. Il est éditeur, écrivain, essayiste. Il est également membre du collège de pataphysique et travaille pour la télévision et le cinéma. On lui doit notamment plusieurs pièces radiophoniques, adaptations ou créations originales pour France Culture. Ses 2 dernières œuvres sont American Gothic en 2013 et Kafka à Paris donc en 2015. Jean-Jacques Régnier, si Jean-Jacques... C'est bon Jean-Jacques, tu es là, tu es avec nous. D'accord. Jean-Jacques Régnier est tombé très tôt dans la science-fiction puisque sa grand-mère lui apprenait l'anglais dans The War of the Worlds. Économiste, devenu spécialiste de l'information sur le monde arabe au CNRS, il traverse, lecteur ébloui et passionné, la nouvelle vague de l'ASF entre 1965 et 1980. À partir de 1995, il devient auteur de nouvelles avec une prédilection pour les 2 thématiques du temps et des intelligences artificielles, puis essayiste pour qui la science-fiction raconte essentiellement des épisodes hypothétiques de l'histoire de l'humanité. Nous avons évidemment le regret de vous annoncer que Jean-Philippe Jaworski donc, a annulé sa participation au festival et comme vous avez pu le voir, il n'est pas présent aujourd'hui parmi nous. Alors, à propos donc de anthropologie fiction, je dirais que dans un premier temps, nous allons essayer de définir d'abord ce que c'est que l'anthropologie fiction, parce qu'il faut véritablement pour le public ici essayer justement de la définir. Alors, attendez, on a un petit problème technique. C'est bon ? Voilà, donc le problème technique est réglé. Donc je vous disais, définition de l'anthropologie fiction. Est-ce que, Xavier, tu pourrais essayer de nous définir, d'abord de partir d'une définition de l'anthropologie, pour ensuite essayer de voir comment pourrions-nous circonscrire l'anthropologie fiction ?
Une définition simple et amendable, on pourrait dire que l'anthropologie, c'est l'étude de l'homme, littéralement, à travers des traits qui lui sont caractéristiques. Par exemple, les anglo-saxons ont un sens très riche du mot anthropologie. Si vous voyez par exemple la série Bones, ce sont des anthropologues. Donc ça touche aussi bien les caractéristiques physiques de l'être humain, mais aussi, bien sûr, ce qui fait que l'on devient pleinement homme, puisque on est humain, mais l'on devient homme, et l'on devient homme dans et par une culture. Or, la culture, tout comme la religion, l'art, et l'activité symbolique en général, est un fait universel qui, donc, est l'objet de l'étude de l'anthropologie. Ça, c'est pour une définition rapide de l'anthropologie. Savoir que l'homme pense et devient pleinement homme à travers une culture. L'ethnologie, rapidement, serait par contre un intérêt plus particulier à l'égard de telle ou telle culture. Et là, le mouvement est inverse. On part des particularités de telle ou telle culture, les Yoruba, mettons, pour en dégager une connaissance. Voilà. Maintenant, la relation, le rapport éventuel entre anthropologie et fiction, c'est que l'anthropologie est un discours déjà, c'est une relation, relation qui est historiquement occidentale, et donc elle est une écriture, voire une réécriture à partir de concepts occidentaux, peut-être de faits culturels qui sont autres qu'occidentaux, et toute la difficulté qui se pose à l'anthropologie fiction, c'est de comment traduire quelque chose qui m'est étranger en quelque chose qui m'est familier sur un fond qui est commun, universel, l'être humain.
Voilà. Alors moi, je voulais vous proposer, mais ce sera évidemment à débattre, une définition de l'anthropologie fiction qui pourrait être assimilable à ce qu'on appelle une ethnofiction, qui nous viendrait de l'utopie et qui, en fait, s'intéresserait véritablement à l'étude de l'homme au sein d'une société créée, c'est-à-dire au sein d'un monde possible. Alors, je crois que la première question que j'aimerais vous poser, c'est quel est votre propre rapport par rapport à l'utopie ? C'est-à-dire que si, par exemple, en tant qu'écrivain ou en tant qu'essayiste, eh bien, vous vous intéressez à l'anthropologie fiction, vous allez inventer des sociétés, des mondes possibles où les hommes vont évoluer d'une manière, je dirais, peut-être sensiblement différente que dans notre réalité. Donc, quel est pour vous, écrivain ou essayiste, ce rapport à ces sociétés possibles ? Robert Silverberg, peut-être ?
I don't think I've actually written a utopian novel, but I've certainly written a few dystopian ones. And that's the same thing in reverse. To examine an ideal society and stand it on its head and show what can go wrong in a non-ideal society, it's the equivalent. I'm a little mystified, since I missed a bit of the translation, as how we got from anthropology to utopia so quickly.
Yes, I agree.
I do understand what anthropological science fiction is, and it's not necessarily utopian, and it's not necessarily human. Even though anthropology, anthropos, man, by extension, when we write anthropological science fiction, we can deal not only with other cultures, but other species. Of course, whenever a science fiction writer deals with another species, he's dealing with anthropos anyway. We can only write about that which we think we understand and find equivalents in alien terms. Because I don't have a deep technical education, most of my writing went in this direction, anthropologically studying variations in culture. It's sociology, too, a term that hadn't come up. But I have to slither away from the utopian question. I don't see it as relevant here.
Je crois que ce que vous avez dit est tout à fait juste. Au départ, on le voyait finalement, cette anthropologie fiction par rapport à l'étude des sociétés, mais vous avez élargi finalement très largement le concept à d'autres espèces. Et justement, alors peut-être Xavier ou Jean-Jacques, finalement, la science-fiction, c'est une création qui traiterait d'autres cultures comme des mondes possibles, c'est-à-dire des mondes culturels qui seraient régis chacun par sa propre logique sociologique. Et donc ma question finalement, ce serait finalement comment la SF arrive à créer ces autres mondes possibles ou traite justement de ces autres espèces et revient à l'homme ensuite via le biais de ces autres espèces. Après, évidemment, Robert, on reviendra à vous.
Je vais peut-être alors prendre simplement un exemple qui, je m'en excuse, ne vient pas de Robert Silverberg, mais vient de Ursula Le Guin. Je pense à La main gauche de la nuit, où il s'agit effectivement d'espèces humaines. On pense que ce sont des résultats d'une expérience qui a été faite quelques millénaires auparavant, et où on nous présente une société multi. Il y a plusieurs peuples, mais la caractéristique de ces hommes et femmes, mais hommes et femmes en même temps, car ils sont bisexuels. Et les habitants de cette planète peuvent successivement être père, puis mère. Donc voilà, et Ursula Le Guin décrit cette société à partir de cette base-là, et elle explique comment un certain nombre de coutumes, de modes de fonctionnement de cette société viennent de cette caractéristique biologique spécifique. Et elle fait un travail qui est effectivement un travail d'ethnologue dont elle a, je pense, hérité de son père qui lui-même était ethnologue, mais je pense qu'elle a hérité d'un certain nombre de connaissances là-dessus. Mais on est en plein là dans une science-fiction où la science qui est mise en œuvre, c'est ni la physique, ni la balistique, ni la chimie, c'est vraiment l'ethnologie.
D'accord. Xavier ?
Non, justement, pour cette lecture faussée qui consiste à... louper une autre espèce, une espèce alien, parce que la lecture est anthropologique. Vous avez aussi le site de Philippe-Joseph Armeur du Parc Armody, où le Parc Armody, chaque fois qu'il arrive sur une planète, se trompe sur les signes évidents, et parce qu'il lit ça comme un être humain, loupe complètement les spécificités de l'espèce alien. Mais moi, ce qui m'intéresse dans mon travail, c'est justement le caractère purement anthropologique. Et par exemple, lorsque je faisais des études de sciences des religions, j'étais tombé sur Babylone. Et donc Babylone en moins 600 avant notre ère. Et je m'étais rendu compte qu'on ne comprenait rien. Enfin, on pouvait rien saisir. On pouvait comprendre ce qui était dit, mais pas le vivre. Par exemple, à Babylone... Les gens vivent entourés de koubou, c'est-à-dire les fantômes des enfants mort-nés, et c'est normal. Donc dans la salle, par exemple, il y aurait des enfants mort-nés qui passent. Pazuzu, le seigneur des moissons, qui est le prince des démons, c'est à lui qu'on confie quand un bébé est né. C'est à lui qu'on le confie, parce que comme il est le prince des démons, il va être flatté de veiller sur un enfant, et donc on est sûr que Pazuzu écartera les démons inférieurs, et donc on protégera notre enfant. Et à quoi s'ajoutera la lecture du Gilgamesh, roi d'Uruk, de Robert Silverberg, qui m'avait marqué, qui montrait là aussi qu'on a affaire à des codes qui sont radicalement étrangers. Et donc cette anthropologie fiction, pour le coup, j'avais pas besoin de la chercher sur une autre planète ou d'inventer des codes, car ici, sur cette planète, à une autre époque, on avait des êtres humains qui avaient un comportement qu'on ne pouvait tout simplement pas comprendre. On pourrait dire la même chose des Mayas ou des Aztèques, et c'est ça qui me passionnait, qui était d'étudier à travers la fiction une structure collective, une société dont on ne captait rien, qui ne nous parlait pas, tout simplement parce que c'est une autre vision du monde.
D'accord. Merci Xavier. Robert, est-ce que dans votre œuvre, vous sélectionneriez peut-être quelques titres pour le public où vraiment vous avez eu l'impression de faire de l'anthropologie fiction? Quelles sont vos œuvres qui seraient marquantes à ce sujet?
Well, all of it. Whenever I write a science fiction story, I'm attempting to enter the minds of people quite different from me. I did write a book about Gilgamesh, and the past is a foreign country, as British writer once said. I'm in a foreign country right now. And though I've been visiting France since before most of you were born, because I don't speak the language well, I don't feel I feel comfortable, but I know that I'm not at home. I can't communicate easily. And, of course, there are things that are different. I'm, after 50 years of visiting France, I know how to deal with a wine list and a menu. But any kind of speculative fiction, I think Le Guin's Left Hand of Darkness is an excellent example, where she worked with what we have to agree is a human race, yes. But a human race so vastly different from us. We have transgendered people among us, I know a good many of them myself, who have been of one sex and moved to another, but the change is permanent.
Yes.
And I think it's permanent anyway. And in Le Guin's Left Hand of Darkness, as they move back from one sex to the other, they undergo psychological impacts that only a great writer like Le Guin could have created for us. Though you say she inherited it. It's true. It's true. When I went to college 100 years ago, I took...
Not more?
Seems like that long. It's actually more than 60 years ago. I took a course in anthropology, and my textbook was a huge green volume called Anthropology by Alfred Kroeber.
Oh, yes.
Ursula's father. And eventually I met Ursula. This was quite a long time ago also. Ursula K. Le Guin. And I said to her, what does the K stand for? And she said, Kroeber, my father was. And I said, yes, Alfred Kroeber. It was a wonderful moment for both of us. Writing about an interaction between humans and alien species involves a kind of anthropology. Trying to understand the world of Gilgamesh, which is almost 2,000 years before the world of Babylon. The Romans, we talk about the Romans as just like us. No, they weren't. They were really strange. And to understand the world of Augustus and Tiberius takes an enormous leap of perception. Just to begin to understand a society in which the emperor coveting your wealth suggests that you commit suicide and name him as your heir, and people do it. Alien. I can give examples all night. This one planet, with its 300 languages and its 800 religions and its different foods. In fact, France alone with its different foods. I've traveled all around France, and I know that what's in the restaurant in Strasbourg is different from what's at the restaurant in Nice yes. And Bordeaux and Lyon and so on. So I've conducted anthropological researches in your very country. And very rewarding they were, too.
Alors, moi, je voulais juste citer, je te donne la parole, Jean-Jacques, après, une nouvelle que j'avais beaucoup aimée, Robert, qui s'appelle En un autre pays, qui est une nouvelle que vous avez, une variation, évidemment, sur le voyage dans le temps. Et là, vous avez fait de l'anthropologie fiction sur les hommes du futur, d'un futur quand même assez éloigné. Et je trouve que la grande réussite de cette nouvelle, c'est véritablement de nous faire pénétrer dans l'esprit de ces hommes du futur, confrontés finalement à nous, c'est-à-dire hommes de notre présent, donc de cette époque contemporaine. Et comment vous y êtes pris finalement pour essayer d'inventer, de rentrer dans la tête de ces hommes du futur, de faire de l'anthropologie fiction, mais finalement dans la tête des hommes du futur ? D'un futur très éloigné. Vous vous rappelez de la nouvelle, peut-être? Non?
Well, unfortunately, because I'm in a foreign country, I'm getting messages in two languages at once. And so I didn't hear the name of the story, but it doesn't matter because... Which one was it?
C'était le nom du personnage, c'était Timmy Roy, le personnage qui venait, une histoire d'amour entre un personnage qui venait du futur et qui visitait donc le passé et qui tombe amoureux d'une jeune femme du passé.
Yes. Voilà. Yes. Yes, now I do. I remember most of my stories. You ask me how I did it. They tell the story of the centipede. Who was asked, which leg do you move first when you begin to walk? And that centipede never walked again, hopelessly entangled in its own legs. I don't know how I did it. I just knew how to do it. What you do in science fiction, what I do in science fiction, but I mean in general what one does in science fiction, is the same thing that any writer does to make the maximum effort to project your mind into another being. It's not easy. That's why only a few of us do it, and only a few of those do it well. But it's not confined to science fiction. I'm reading a novel by a French writer, Balzac, I think is the name, Illusion Perdue, and it's about writers, but it's also about women of high society, which he was not, and about aristocrats, which he was not, and to me, a plebeian from a foreign country, it's very convincing because he was a great writer who was able to make that imaginative leap. In science fiction, we have to make a double imaginative leap because we have to understand the human values out of which stories are created that you people can read and understand, and the non-human values of whether it's Le Guin's, I forget the name of her planet, or Gilgamesh's Uruk, it's a difficult profession. If I had known how difficult it was, I never would have taken it up.
Merci. Jean-Jacques, est-ce que tu te rappelles de la remarque que tu voulais faire?
Oui, non, c'était une toute petite remarque. On voit souvent dans des vaisseaux spatiaux qui explorent les planètes extrêmes un certain nombre de spécialistes, parmi lesquels des exobiologistes. Des gens qui sont supposés avoir une formation de biologie qui leur permet de comprendre des biologies différentes de la nôtre. On voit assez rarement, on en voit, mais quand même beaucoup plus rarement, soit des exolinguistes, et peut-être qu'il faudra que l'on revienne aussi sur les problèmes de langue, parce que je crois que c'est très important, soit des exosociologues, soit des exoethnologues, en l'occurrence, c'est-à-dire des membres dans l'équipage qui sont supposés, une fois qu'on s'est posé sur une planète... habité par une population X, avoir les outils pour mieux comprendre ou mieux établir des contacts avec des modes de pensée complètement différents. On les voit beaucoup plus rarement. On en voit quelques-uns. J'ai pas d'exemple qui me vienne en tête, mais je trouve que c'est dommage.
D'accord.
Voilà.
Okay. Bien, alors, une autre question, finalement.
I want to say one thing first.
Oui, oui, bien sûr.
What came through when you were talking of the various exosciences complicated by the fact that I'm listening to the simultaneous translation, was exo-astrology. Exo-astrology. And I thought, what a wonderful idea. And it's available. I'm not going to write it.
Yes. It's not the same zodiacal circle.
They have different constellations.
Yes.
Different stars.
Yes.
Exo-astrology would have different rules.
Yes, maybe 15 constellations or more.
Yes, a zodiac of 27 symbols.
which is free, with free.
Yeah, you so see how free. You see how this is done. Exo-astrology, and it was just an accident.
D'accord. Alors, autre question, pourquoi, en termes de création, pourquoi un écrivain, finalement, de science-fiction choisit-il de traiter une histoire en s'inspirant des sciences humaines plutôt que des sciences dures, parce que parfois la science-fiction est effectivement assimilée aux sciences dures, hein. Je peux citer par exemple un auteur comme Greg Egan. Et pourquoi finalement un écrivain s'aventurerait plutôt, je dirais, sur ces terres anthropologiques, Xavier ?
Pourquoi les sciences humaines plutôt que les sciences dures ?
Oui.
Bah parce que je suis une quiche en sciences dures.
D'accord. Et
non, vraiment,
Oui. Ok. Alors, autre question que je pourrais vous poser.
Je peux rebondir sur cette question-là.
Jean-Jacques, je t'en prie.
Je pense au travail qu'a fait Roland Lehoucq à plusieurs occasions quand il étudie la physique de Star Wars, oui. qu'il étudie. Donc, voilà un scientifique en sciences dures qui décortique le mode de fonctionnement d'un certain nombre de textes de science-fiction ou de films de science-fiction. Et qui essaye soit de souligner des erreurs qui s'y trouvent, soit au contraire de donner des explications en rapport avec ce qui s'y passe en termes de sciences dures. Pourquoi n'avons-nous pas l'équivalent en termes d'ethnologie, de sociologie extraterrestre ce serait intéressant d'avoir cette même démarche scientifique en sciences humaines et sociales sur des textes ou des films de fiction. De science-fiction, en l'occurrence.
Tout à fait. Eh bien, appel peut-être à tous ceux qui nous écoutent. Alors, ensuite, là, je vais rebondir peut-être, non pas en tant qu'écrivain, mais peut-être en tant que lecteur. Est-ce que vous pourriez me citer finalement des œuvres qui vous ont marqué en tant que créateur et en tant que lecteur, des œuvres véritablement de science-fiction, donc anthropologiques ? Oui.
Ah, ben, pour le coup, je crois qu'en français, c'est « Voir l'homme invisible ». De Robert Silverberg, justement, qui moi est épatante. Je la tiens pour un des plus grands textes. Donc pour le public qui ne la connaît pas, un homme est frappé d'invisibilité, c'est-à-dire qu'on lui appose un signe et il devient invisible pendant un an. C'est-à-dire que pendant un an, il peut en théorie faire ce qu'il veut puisqu'il est invisible, il se nourrit chez les gens, il peut prendre des vêtements, etc. Sauf que comme il est invisible, on peut lui faire aussi ce qu'il veut. Et je trouve que, et là je réponds plus sérieusement à la question pourquoi les sciences humaines, c'est un magnifique miroir de notre société, parce que c'est une société, si ma mémoire est bonne, qui est légèrement futuriste. Le texte se situe dans le futur, et pourtant on a des comportements archaïques de cités style la première Rome ou la première Athènes qui ne sont possibles que dans des cités de taille simple. Et je trouve que Voir l'homme invisible est un texte absolument remarquable à la fois sur la politique, la société, la morale, le comportement humain. Je le tiens pour... Enfin, c'est le genre de texte de nouvelle qui vaut quantité de romans, peu importe la longueur du texte. Ça laisse un souvenir qui vaut 1000 romans. Donc, Voir l'homme invisible.
D'accord, merci. Merci, Xavier.
Thank you.
Robert.
It's been a very busy day for to see the Invisible Man, because this afternoon I did a panel on justice, and I gave that story as an example of an invented kind of justice. The man is a criminal, and he is sentenced to invisibility. It's not a privilege; it's a penance. It's torment. And there's a kind of negative anthropology in that. By being made invisible, he is cut off from the human race and experiences the psychological torments of his invisibility, even though he can go wherever he please and do anything at all, and nobody dares interfere with him because they can't see him officially. He's legally invisible. But that is an example of anthropological science fiction with no anthropology in it. It's all implied in the events of the story.
Oui, moi je trouve que c'est une très bonne nouvelle aussi, parce qu'elle donne à voir la société via l'individu. Et donc, c'est vrai que là, on revient finalement au début de la discussion, c'est-à-dire qu'en partant finalement d'un exemple d'un personnage, d'un individu, de réaction individuelle, donc au sein d'une société donnée, on donne à voir finalement en creux tous les rouages de cette société. Et alors, Robert, je reviens à ma question. Est-ce qu'il y a, vous, une œuvre, peut-être en tant que lecteur, qui vous a fortement marqué ou peut-être influencé dans votre création ? Est-ce qu'il y a un titre, éventuellement, que vous pourriez nous donner, ou un titre de nouvelle ?
Well, there are, of course, so many that I have to swim through my mind. But one that comes to mind fairly quickly, I saw a copy of it in the room and I was reminded of it. Jack Vance, is he well known here? Of course he is. A story called To Live Forever in English. The French, I forget what the French translation was, but it was close enough. This is about a society in which it's possible to attain immortality through a series of social maneuvers. You climb toward immortality, and of course the immortals are quite different psychologically from the short-lived people. It had tremendous impact on me to the extent that I rewrote it in 10 different ways during the course of my career. In some ways, akin to the Balzac novel that I was talking about, because instead of attaining immortality in the book, you attain the aristocracy, and you have the particule to distinguish it, an honor which Balzac gave to himself. So I think Vance, who was an extremely astute observer of human foibles, in that novel portrayed a society of the future that was culturally quite alien, physically quite alien. They went through a process that made them immortal and provided a vision, which is what I think science fiction essentially does, a vision of an alternative reality that casts a light of understanding on the reality, the only reality that we have.
Merci.
Which is
Merci.
Ours.
Jean-Jacques, un titre.
Un titre, hein, parmi, comme le disait Robert il y a un instant, parmi beaucoup, je pense à Dune, qui est effectivement un exemple éclatant d'une description d'une société complètement différente de la nôtre et où effectivement le mode de fonctionnement de cette société en diverses classes, en diverses couches est parfaitement décrit, en même temps décrit et montré dans son fonctionnement, ce qui est une meilleure description encore qu'une simple description. Oui, c'est l'exemple qui me vient à l'esprit.
Alors, dernière question, dans la table ronde que j'ai animée précédemment, nous avions eu une remarque donc dans le public d'une jeune femme qui nous disait finalement, est-ce que le merveilleux, les légendes peuvent influencer les réalités historiques ? Et alors moi j'ai envie de reprendre cette question pour un petit peu rebondir, peut-être comme en tant que conclusion, en tant que réflexion finale. Est-ce que la science-fiction, finalement, en tant qu'anthropologie fiction, peut influencer le réel ? C'est-à-dire donner à voir des modèles possibles, en tant qu'individu peut-être, en tant que société, voire prévenir des avenirs dystopiques ? Est-ce que finalement, on en revient à c'est une question assez, assez classique, mais est-ce que finalement, les analyses anthropologiques que nous fournissent la science-fiction peuvent avoir un impact sur le réel, ou pas du tout finalement, je dirais en termes d'anthropologie, bien sûr. Hein.
Voilà une question qu'elle est bonne, mais difficile.
Oui, je sais. Xavier,
pour m'en tenir au sens strict d'anthropologie, pour moi, un magnifique exemple de réponse et d'anticipation, c'est Fahrenheit 451, puisque on assiste à un changement de comportement dans notre société, et qui nous éclaire parfaitement sur, sur le présent. Je crois que Fahrenheit date de 1953. Il est très intéressant parce que quand on lit en dehors du souvenir, le souvenir de Fahrenheit qu'on a, il y a des méchants pompiers qui brûlent des livres dans une dictature. Il est souvent réduit à ça. C'est pas du tout ça. Dans Fahrenheit 451, tous les gens sont vraiment heureux. Il n'y a guère que le pompier Montag et deux ou trois marginaux, dont une qui se suicide à la page 4, à l'âge de 17 ans, qui ne trouvent pas leur place. Et on assiste à une société qui est totalement heureuse en ayant tout simplement renoncé à un rituel qui est le rituel de la lecture du livre papier. Cela dit, dans Fahrenheit 451, chaque pompier a son, comment on appelle ça, un code, un manuel. Le manuel des pompiers est imprimé sur papier. Et on a affaire à une société qui n'est absolument pas dystopique, qui est donc bien une utopie de leur point de vue, et qui finit par la disparition complète du livre papier des deux côtés, puisque les pompiers crament les livres, mais les hommes livres sont des hommes livres, ce ne sont plus des livres. Et je trouve que Fahrenheit 451, en modifiant légèrement un comportement sociétal et un rite anthropologique qui est la lecture, nous renseigne de manière très intéressante sur une société joyeuse qui se passe de lire des livres papier, qui est tout simplement la nôtre.
D'accord. Oui, tout à fait. Robert?
Well, I hope that somebody's reading books. At least for the next few years. A book that comes to my mind is Aldous Huxley's Brave New World, both for the technical, the hard science part of it, in which human reproduction is replaced, the present process is replaced by synthetic reproduction. But also, he explores in 1933 a drug culture, a world that is sedated by drugs, and shows very clearly the consequences, much of which we're living through. Particularly, I come from California. I saw it all at close range, the development of a drug culture as a positive thing, and then its decline into decadence. Ironically, Huxley himself, toward the end of his life, became an advocate of LSD. But there's a novel which, in many ways, foretold the world of today. We are still not born out of bottles, but we have in vitro processes of all sorts that harken back to Huxley's novel of 80 years ago, a little more than 80 years ago. Yeah. I hope your original question, we've deflected a bit. Are there any anthropological science fiction books or stories that have influenced the way we live? And probably there are, but I hope not.
Voilà, la question qui se pose, c'est peut-être par quel côté négatif ou côté positif, finalement, s'est créée cette influence. Jean-Jacques,
honnêtement, effectivement, c'est un bon exemple que vient de donner Robert Silverberg, mais je n'en vois pas, moi, il aurait fallu réfléchir un peu plus longtemps à cette question tout à fait précise. Mais je pense comme ça à 1984 parce que beaucoup de commentateurs, par les temps qui courent, disent on est en train d'entrer dans un monde voisin de 1984. Mais je ne crois pas que l'influence vienne de là. Je veux dire, il y a des ressemblances, il y a des choses qui se croisent. Mais je ne crois pas que ça a été une influence négative, 1984. Ça a toujours été un repoussoir, une dystopie en tant que telle. Donc je ne crois pas que l'influence soit directe. Mais je n'en vois pas comme ça, a priori, au pied levé, qui apparaissent clairement.
Bon, très bien. Très bien. Voilà, nous dirigeons donc vers la fin donc de cette table ronde. Et maintenant, nous allons donner la parole au public. Donc, est-ce que vous avez des questions à poser à nos intervenants?
Oui, bonsoir. J'ai trouvé la table ronde très intéressante, mais il y a une discipline des sciences humaines qui a été brièvement évoquée, mais je trouve un peu absente, c'est la psychologie. Et notamment une discipline qui me tient à cœur, qui s'appelle la psychologie sociale. Et je tiens à en parler parce qu'en fait, dans ce que vous disiez, vous parliez beaucoup au niveau société, donc d'un ensemble d'individus très grands, alors que la psychologie sociale peut s'intéresser à des dynamiques de groupe beaucoup plus restreintes. Et je trouve que la science-fiction aborde souvent cette question-là à travers de certaines œuvres. Je pense à des séries télé, notamment je pense à Lost en premier lieu. Je pense également à Walking Dead, je pense à une autre série qui s'appelle The 100, où on s'intéresse à ce qui se passe entre des individus positionnés dans une situation extraordinaire. Et donc je trouve que, honnêtement, ces séries-là sont de vrais cours de psychologie sociale. Et il y a aussi autre chose que je voulais évoquer avec vous, poser éventuellement la question, entendre vos remarques, c'est l'anthropologie, la sociologie, la psychologie, ce sont des disciplines qui s'intéressent à ce qui se passe, je reprends l'expression d'un psychologue social allemand, Hans Leschleitner, dans les tripes de l'homme. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de lui? Comment est-ce qu'il intègre la culture, etc., etc. Et je me pose cette question, c'est une obsession personnelle, je l'avoue, de savoir qu'est-ce qui se passerait si un groupe d'individus confisquait, entre guillemets, ce savoir-là sur la personne, sur comment est-ce que ça se passe dans sa tête. Et je me demande parfois si la science-fiction n'est pas aussi une façon pour les chercheurs en sciences humaines de prendre conscience de ce que ceux à propos de quoi ils travaillent pourraient avoir comme conséquence dans l'avenir. Je ne sais pas si je suis clair dans ma question.
Pas sur la fin, excusez-nous là.
C'est moi. Voilà, je commence aussi à être fatigué. Je vais reformuler, je suis désolé. C'est-à-dire que parfois je pense à une œuvre que je suis en train de lire d'Alain Damasio, La zone du dehors, où en fait il décrit ce qui pourrait se passer en fait sur la décomposition d'individus, compétence par compétence, avec des notes, etc., etc. Or, il s'avère que quand je regarde ma discipline d'origine, qui est la psychologie sociale, je retrouve des choses qui pourraient nous amener à cela si ça tombait, excusez-moi de m'exprimer simplement, mais c'est pour être clair, ouais, entre de mauvaises mains. Est-ce que c'est D'accord. plus clair comme ça?
Oui, voilà, tout à fait.
Merci.
Est-ce que vous voulez répondre, Xavier?
Pour la première partie de votre intervention, je suis tout à fait d'accord. La science-fiction, effectivement, aligne les exemples de psychologie sociale. Pour la deuxième partie, mais ça ne vaut que mon avis, la réponse est clairement non. C'est-à-dire que, bon, déjà, premier élément, lorsqu'on dit des sciences humaines que sont des sciences molles ou non exactes, j'aurais tendance à contester ce terme, puisque l'être humain est excédentaire, il est imprévisible. Donc il faut des sciences imprévisible ou en tout cas non formaté pour capter l'essence de l'homme qui est non formaté. En fait, ce sont des outils, les sciences dites humaines, enfin oui, les sciences humaines, parfaitement adaptées à comprendre la nature humaine. D'autre part, pour répondre à la deuxième partie de votre deuxième élément, est-ce que ça pourrait arriver, est-ce que ce serait mal? Ben non, puisque ça ferait partie de la nature humaine. C'est une sorte de d'ensemble anormal à la Bertrand Russell, c'est-à-dire que si l'être humain va contre sa nature, c'est dans sa nature. Donc en fait, ce serait une démonstration du fait que l'être humain est capable de tout, y compris de ce dont il est incapable ou dont il ne se croit pas capable. Ce serait une démonstration, en fait. C'est que mon avis. Hein.
Merci, Xavier. D'autres questions? Je ne vois pas. Oui. Ah, si. Monsieur. Oui, c'est les gens sont fatigués.
Puisque personne n'a de questions, moi j'avais une remarque qui m'est venue à l'esprit. C'est une histoire de Robert Silverberg qui s'appelait La danse au soleil, Sundance, où il y a une espèce de croisement entre l'anthropologie et la psychiatrie, en fait. Je ne sais pas si vous voyez, si vous l'avez lu. C'est en fait des humains qui vont sur une planète pour exploiter ses ressources, et il se trouve qu'il y a une espèce qui vit là, mais on la pense pas intelligente, et parmi ces humains qui sont venus exploiter cette planète, Il y en a un qui est d'origine indienne d'Amérique et pour qui cette espèce sur cette planète, elle lui rappelle en fait l'histoire de son peuple qui a été vu comme des sauvages quand on est arrivé et qu'on a juste exploité finalement quoi. Et en fait à ce niveau-là, l'anthropologie, le rapport entre cette ethnie étrangère et l'ethnie américano-indienne, tellement elle est proche, elle crée une confusion qui permet en fait de faire se demander à cet Indien s'il n'est pas fou, parce qu'il va, il les étudie, il va parmi eux, ils ont un rite où ils dansent, où ils prennent de la drogue qui sous forme de plantes qui font un peu tourner la tête, voilà, un peu comme ce que fumaient éventuellement les Indiens. Et voilà, et finalement il sait jamais où est la vérité, si la drogue l'a rendu fou ou s'il voit en eux une intelligence alors qu'il n'y en a pas, parce que les autres lui disent que non, et il rentre dans des espèces de trappes, un peu comme dans Inception, le rêve dans le rêve, ça ne s'arrête plus. Voilà, cette discussion m'a beaucoup fait penser à cette histoire aussi.
Là, on va croiser deux tables rondes, celle sur, de cet après-midi sur les asiles psychiatriques et la folie, finalement, dans la science-fiction. Et puis, bien sûr, l'anthropologie fiction. Voilà. Donc, ce n'était pas vraiment une question. Hein. Vous avez fait une remarque. Je crois qu'il y avait un monsieur devant qui avait une question. Non ? S'il y a quelqu'un là-bas.
Oui, bonsoir. Merci beaucoup, du coup, pour cette conférence. J'aurais une simple question à vous poser. Vous avez beaucoup parlé d'exo-ethnologie, même sociologie tout à l'heure, notamment pour parler peut-être d'espèces aliens si on en découvre un jour. Mais d'une certaine façon, vu que l'homme, pour créer ses modèles sociologiques et ethnologiques, est obligé de se baser sur lui-même avant tout, est-ce qu'il ne va pas simplement décalquer sur ces espèces aliens des comportements qu'il associe à lui-même et considérer qu'ils sont intelligents simplement lorsqu'ils correspondent à ces modèles, ou est-ce qu'on pourra un jour être capable de véritablement transcender notre notion de l'intelligence et notre notion de l'organisation sociale pour les rendre plus inclusives? Est-ce que vous pensez que ce serait possible à l'avenir?
Ben c'est le seul exemple concret qu'on ait, c'est la plaque en or qui a été fixée sur Voyageur 2 ou 3, 4, 5, 6, je ne me souviens plus exactement, et qui a été expédiée au-delà du système solaire avec un certain nombre de messages essayant de décrire ce que c'est que l'humanité. C'est pour l'instant le seul exemple concret de ça, et Carl Sagan, qui entre autres a travaillé là-dessus et sur cette plaque, se demandait si effectivement ça allait être compris ou pas, si ça avait un sens de faire ce geste.
Robert, peut-être vous voulez essayer de répondre à la question.
Well, I'm at a bit of a loss there because the amplification of the question was such that it covered the simultaneous translation and I heard neither language, so I don't know what was asked.
Bon, je vais essayer peut-être de reformuler la question, simplement, qu'on va vous traduire. En fait, la personne qui a posé la question, vous me dites, hein, si je me trompe. Voilà, elle pense que quand l'anthropologie fiction, quand elle s'intéresse finalement aux extraterrestres ou, je dirais, à l'exopsychologie ou à l'exoanthropologie, elle ne fait que reproduire finalement les modèles humains et elle se demande si... Enfin, peut-être. Et elle se demande si un jour on sera peut-être capable d'essayer de sortir finalement de ces modèles humains. D'essayer de décrire une autre intelligence. Une intelligence exotique ou... voilà.
I'm awaiting the question in English. It hasn't come to me. Well, I will say, since I can't answer that question, that I'll answer the non-question, that Sundance, I think, is a perfect example of anthropological science fiction in the most literal sense, since it was based on literal anthropological study of American Indians, but also has the speculative aspect of setting it all on an alien planet where the American Indian is confronted with the parallel of his own race's dilemma when he's asked to exterminate aliens, which turn out not to be unintelligent. So there is a demonstration of anthropology being used for a science fictional purpose. And though anthropology is not a hard science in the sense that chemistry is, we don't have an argument about how many protons there are in an atom of uranium, but we can discuss human nature far into the night without coming to an agreement, even in this one group, let alone a heterogeneous group. What we do in science fiction is speculate. What if things were like this? And by making use of the material of anthropology, we come to understand the nature of human nature. And that's all we can write about is human nature.
Ce qui répond peut-être un petit peu à la question qui n'a pas été traduite pour Robert Silverberg. Voilà. Je crois que le temps est... Oui, le temps est écoulé, donc nous allons remercier évidemment nos intervenants pour la qualité de cette réflexion et remercier également le public pour votre attention. Bonne soirée.